Bon, attaque Buddy Copperman en se beurrant une nouvelle tartine. Vous marchez avec nous ? Pour aller où ? Je ne sais pas. On le découvrira ensemble. Vous avez un matériel génétique évidemment très fort et la faculté d'agir par la pensée. Il nous reste à découvrir le pourquoi de la chose, autrement dit le sens de votre mission, si vous en avez une. J'acquiesce. Un garçon dépose un petit pain sur l'assiette à ma gauche. Je vais pour le rompre et puis je me ravise. Ça ne serait peut-être pas de très bon goût. Ce que vous appelez « matériel génétique » n'est pas une notion théologiquement correcte, objecte l'évêque en fixant mon assiette à pain. L'ADN ne signifie rien. Monseigneur aime bien jouer l'avocat du diable, m'explique Irwin Glasner sur un ton de conciliateur. Dieu sème la grâce où il veut, et non où les généticiens le décident. Vous me faites penser à des vignerons qui croiraient avoir percé le mystère du vin de messe. C'est l'Eucharistie qui transforme le rouge de table en sang christique, pas la manière de le vinifier. Je lui demande s'il cueille le raisin sur les épines. Qu'entendez-vous par là ? Je lui rappelle que c'est dans saint Matthieu. Il a raison de se méfier des faux prophètes déguisés en vendangeurs, mais c'est au millésime qu'on juge le cep, à condition de remplacer les barriques. « Et pendant les dents !» se réjouit Copperman. « Faites gaffe, Partibus. Quand les piscinés se mettent à connaître l'évangile mieux que les évêques, l'Église a du souci à se faire. » « C'est parce que c'est tout frais, » dis-je pour ménager la susceptibilité du Monseigneur. « Tout arbre qui ne donne pas un bon fruit, » réplique-t-il en me retournant la conclusion de la parabole, « on le coupe et on le jette au feu. » Je lui réponds que cette morale de bûcheron n'est vraiment pas ce qu'il y a de plus miséricordieux dans la Bible. « Et qui êtes-vous pour juger ? » s'écrie-t-il dans un sursaut, puis il se tourne vers les autres en baissant la voix. « Je trouve scandaleux tout ce que j'ai entendu sur la prétendue divinité de cet individu. Pour l'instant, aux yeux de l'Église, il n'est au mieux qu'un guérisseur. Ce n'est pas le degré ni la nature du phénomène qui fonde le miracle, mais l'intention dans laquelle il est accompli. Et vous croyez que je guéris les gens pour leur faire du mal ? J'estime que détenir un fluide n'implique en rien posséder la grâce. » Je suis bien d'accord, mais j'ai rien demandé. C'est vous qui venez me raconter que je suis le Messie. Nous n'avons rien dit de pareil, se récrie l'évêque. Et il referme la bouche. Le sommelier est arrivé avec le Nuit Saint-Georges. Il le débouche, me le fait goûter. Je ferme les yeux en appelant l'image d'Emma pour faire écran à ces gens. Retourne le vin sur ma langue et l'avale en disant « Ok ». Il nous serre, couche la bouteille dans un panier d'osier, s'en va en nous souhaitant un agréable déjeuner. Vous avez été informé de la provenance supposée de vos gènes, c'est tout, reprend l'évêque entre ses dents. Et si l'on m'avait consulté à l'époque, je me serais farouchement opposé à l'idée d'annoncer une telle nouvelle à quelqu'un d'aussi improbable. Je vide mon verre d'un coup, puis je le regarde en face, très calme. Et qu'est-ce que vous savez de moi ? Je suis peut-être un type très bien ? C'est moi qui suis chargé d'instruire votre dossier à l'intention du Saint-Siège. Dois-je vous rappeler les éléments dont je dispose ? Une condamnation à 3 mois avec sursis pour voie de fait sur des mineurs, une liaison notoire avec une femme mariée, des coups et blessures volontaires dans l'enceinte d'une église, le pillage d'un distributeur automatique de beignets, la prétendue réanimation d'un piéton dont on n'a retrouvé ni trace ni témoin, et la guérison hypothétique d'un soi-disant aveugle sans existence administrative dont la cécité ne s'appuyait sur aucun certificat médical. » Il se rejette en arrière et serre les mâchoires en détournant les yeux, tandis qu'une jeune fille nous dépose nos assiettes avec des seins en gelée dans le décolleté blanc. Le conseiller Glasner a rempli mon verre. Je le descends d'un trait en essayant de rester zen. « Et pour compléter mon dossier, » renchérit le Partibus dès que la serveuse a tourné les talons, « on me présente un pochetron incollable sur le Bourgogne qui ne retient de l'Évangile que ce qui a trait à son vice. Non mais ça suffit là !» Je ne vais pas me laisser insulter par mes évêques. Vous l'entendez, Irwin ? Si vos scientifiques ne m'avaient pas soutenu que son ADN est celui des taches du linceul, jamais je n'aurais vu en lui autre chose qu'un mécréant paillard et hystérique. Et vous, sans votre croix en sautoir, vous auriez l'air de quoi ? D'un connard d'agent du fisc en train de prendre son pied en torturant un contribuable ? Mesurez vos paroles, jeune homme. Si tu veux, on sort et on s'explique.
Moins fort, soyez gentil, nous implore Glasner.
Je lui réponds que j'ai cogné les braqueurs en état de légitime défense. Ma condamnation est une erreur judiciaire. Et une procédure apostolique n'est pas un blanchiment, glapit l'évêque. En aucun cas,
vous m'entendez? Je ne soutiendrai auprès du Vatican la candidature de cet énergumène au rang de messie transgénique. »
Il se lève et quitte la table. « Il se calmera, » commente Buddy en saussant son assiette. Le père Donoway secoue la tête, consterné, promène une morille entre ses morceaux de lotte. Irwin Glasner allonge son bras et pose une main amicale sur mon poignet. « Ce n'est pas contre vous, Jimmy. Il faut comprendre que les chrétiens soient un peu chatouilleux sur l'image à laquelle on associe leur Christ. Qu'est-ce que vous allez faire de moi, alors? M'enfermer au secret pour éviter de chatouiller la chrétienté? » Le silence qu'ils observent soudain me fait froid dans le dos. Où ils y ont pensé, où je viens de leur donner l'idée et, apparemment, elles cheminent. « C'eût été peut-être le désir de certains, » murmure Glasner, « mais ce n'est pas l'option retenue. Nous souhaitons vous préparer, Jimmy, vous assurer la meilleure formation possible pour que vous soyez à la hauteur de vos origines, que vous puissiez choisir en connaissance de cause, agir en conséquence. »
Et réussir votre examen de passage, complète Buddy Kupperman.
Quel examen?
Si vous acceptez la préparation théologique et mentale qui nous semble opportune, poursuit Glasner, nous mettons à votre disposition cette maison dans les montagnes rocheuses. Je repousse la photo qu'il me tend, lui demande ce qu'ils entendent par examen de passage et devant qui je dois le réussir.
Le pape, Jimmy, laisse tomber Irwin Glasner avec douceur. Le représentant de Dieu sur terre. C'est lui qu'il faudra convaincre de votre nature, de votre potentiel et de vos intentions. C'est lui qui se prononcera sur le caractère sacré ou non de votre personne et qui vous donnera éventuellement l'autorisation de divulguer au monde votre empreinte génétique.
Sans l'investiture officielle, appuie Kupperman, vous ne pouvez rien faire. Je veux dire, vous n'incarnez rien. À la limite, vous n'avez pas le droit de soulager les souffrances. Les chrétiens se déclarant guéris par vous risqueraient même d'être excommuniés.
J'attrape à tâtons mon verre, puis le repose sans y toucher. Je cherche autour de moi machinalement. Il n'y a pas de vivier dans ce restaurant. M'oublier en apprivoisant une langouste, c'est tout ce qu'il me faudrait en ce moment. Je redescends dans mon assiette. « Vous ne dites rien, Jimmy ?» s'informe le père Donoway d'une voix gentille. Je mange pendant que c'est chaud. Il me regarde mastiquer, sans cacher leur anxiété. Je me tourne vers le lac où passent des canards entre les barques. Des filles rient, des hommes les prennent en photo. Un enfant derrière les grilles leur jette du pain. Toute cette vie banale et simple à laquelle je n'ai plus droit. Je regarde le jeune couple assis dans l'herbe, sur l'autre rive, en train de manœuvrer un voilier téléguidé. Ai-je le choix? Ils me logent dans un palace de rêve, ils m'invitent à la montagne, ils mettent à ma disposition un scénariste génial pour me donner une formation d'apprenti messie présentable au pape. Si je refuse, c'est le chômage, l'errance, la liberté. Mais la liberté de faire quoi? De jouer les guérisseurs clandestins en risquant la prison? Ou de m'interdire à jamais d'approcher un malade, de toucher un infirme? J'ai le choix entre la soumission et le remords. Ma décision est prise. Si l'érable est sauvé, je leur dis oui. J'essuie ma bouche, repose ma serviette. J'ai besoin de réfléchir encore un peu. Le soulagement se répand autour de la table. Une glace, un gâteau, propose le conseiller scientifique en sortant son étui à cigare. Ça va, je reste sur le vin.
« On vous ramène à l'hôtel en voiture, » dit Kupperman. « Vous pourrez vous reposer un peu. Ensuite, nous avons un petit briefing à 4 heures dans la suite du docteur Entridge. Vous ferez connaissance avec le reste de l'équipe. Et si tout se passe bien, si on finalise nos accords, on partira demain matin pour les Rocheuses. »
Je regarde la photo que j'ai repoussée tout à l'heure. Un immense chalet de bois noir avec des volets rouges au milieu d'une forêt de sapins entourée de sommets blancs. « Vous auriez préféré le désert ?» demande prudemment Irwin Glasner. Je les remercie pour le déjeuner et les informe que je rentre à pied.
« Je vous accompagne, » propose le père Donoway en se levant.
« Si vous voulez, bien sûr. »
La contrariété que je perçois chez les deux autres me fait répondre oui. Avant de quitter le restaurant, Je passe aux toilettes où je laisse un message sur la boîte vocale de Kim. Si jamais elle est encore à New York et qu'elle accepte de me revoir, d'en savoir plus sur ce qui m'arrive, elle me trouvera au Parker Méridien. J'ajoute, du ton le plus sincère possible, avec les vibrations et les fêlures qu'il faut, que j'aurai terriblement besoin d'elle dans l'heure qui vient en tant qu'avocate.